Radio Foot International, Annie Gasnier.
Merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI et de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour à tous, muy buenas tardes.
Hola, Jura, buenas tardes. La noticia más esperada. El entrenador del Real Madrid será Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane de retour, Buelbe. Zinedine Zidane, il revient au Real Madrid. La nouvelle sera officialisée dans la soirée par les dirigeants de la Casa Blanca, mais la nouvelle a déjà été donnée. L'arrivée de Zidane et l'éviction donc de Solari, un retour en pompier qui suscite plus de questions que de réponses. Et nous essaierons de comprendre ce retour de Zizou dans la tourmente où sont plongés les merengues, où sont d'ailleurs plonger les merengues pratiquement depuis son départ. Pierre Chaperon, notre correspondant à Madrid, nous en dira plus. Bon, Zizou ne sauvera pas le PSG, donc le PSG de ses démons, mais le PSG réagira peut-être aussi spectaculairement, qui sait. En tout cas, hier, ce sont les supporters qui ont manifesté leur mécontentement aux joueurs, alors que deux des leurs, deux champions du monde, ont tenté de s'expliquer à travers des médias au cours du week-end, avec ou sans l'accord du club. Derrière le PSG, eh bien, une passionnante bataille en Ligue 1 pour le podium et les places européennes. Lille est toujours deuxième, de plus en plus haut, alors que les Olympiens se suivent de très près. L'Olympique de Marseille a gagné grâce à Super Mario, alors que l'Olympique Lyonnais calé du côté de Strasbourg. Et résultat, l'écart se resserre. Et pour évoquer tous ces sujets, Habib Bey est de retour. Hein. Les auditeurs n'en pouvaient plus, Habib, de votre absence. Et on avait du mal à justifier votre absence.
J'ai pris un petit peu de repos. Bonjour Annie, bonjour à tous. Ça me fait un grand plaisir de revenir.
Bonjour Habib et merci d'être là. Il y a aussi... Dominique, on vous a invité une semaine après.
Merci Annie, c'est gentil.
Bonjour Dominique, c'est vrai.
J'ai besoin d'une famille, vous savez. J'ai besoin d'une famille d'accueil, je suis pas bien. Là.
On est là Dominique. Ça ne s'arrête pas, jamais avec le PSG, ça ne s'arrêtera pas. Et puis il y a Chérif Guémour, bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Oiseau de mauvais augure qui avait parlé de l'amplitude de Manchester United pour réagir.
Non plus, hein. Sérieux,
on n'y croyait pas le mercredi.
Moi j'ai eu une grande pensée pour l'Ajax d'Amsterdam qui a joué un petit peu comme...
Merci.
Le football qu'il aime de Johan Cruyff,
c'est un petit peu ça. Mais d'ailleurs, il était là pour nous en parler mercredi dernier.
Mon beau maillot, tu m'as pas eu.
On était tous amoureux tout d'un coup et sous le charme de cet Ajax. Et puis Eric Mamrud est avec nous. Bonjour Eric.
Hola, buenas tardes.
Oui, c'est le jour de parler espagnol. À Radio Foot, c'est parti. Nouvelle panenka de Zizou, vient d'écrire sur Twitter notre camarade journaliste gabonais Freddy Koula. Et oui, la nouvelle enflamme les réseaux sociaux depuis moins d'une heure et tous les médias sportifs. Zizou, est donc de retour. Il y avait des rumeurs, on en avait parlé dans le Café des Sports, des rumeurs autour de Zidane, autour de Mourinho. Et la victoire des merengues ce week-end à Valladolid, eh bien, n'aura rien changé au sort, sans doute déjà scellé de Santiago Solari, discrédité à chaque grosse défaite. L'élimination avait déjà eu raison de son crédit. Alors Zinedine Zidane revient. Pierre Chaperon, vous êtes en direct de Madrid, bonjour.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien. racontez-nous ce dénouement assez surprenant, Pierre, et surtout les détails peut-être que vous avez. Est-ce que Zidane revient pour bâtir un projet? Est-ce qu'il revient en pompier?
C'est l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on l'a appris via ce programme qui s'appelle Rougones, qui est le journal des sports ici en Espagne, sur la sixième chaîne, la Sexta. Généralement, ils sont très bien informés de ce qui se passe à l'intérieur du Real Madrid. Et après, donc, ils ont donné cette information que Zidane était de retour. Et tous les autres médias, la Cadena Ser, la Cadena Copé, etc., ont embrayé sur cette info, confirmant donc cette info de Rougones de la Sexta. Il revient, c'est inattendu, c'est inespéré, c'est... On en a les mains qui tremblent, hein, sincèrement. Ça fait une heure que l'info.
C'est le cœur des supporters qui parle, non?
Ah non, 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 mais c'est quelque chose, on n'attendait pas du tout. Ce week-end, on était resté sur du Mourinho de retour. Donc, à mon avis, Zidane ne revient pas comme ça. Il doit avoir des garanties de la part de Florentino Pérez, notamment sur le volet des transferts, sur qui doit partir, qui doit venir. Si Zidane ne vient pas les mains dans les poches et ne vient pas en pompier de service.
Certains médias espagnols disent qu'il ne viendrait que jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire en gros pour éteindre l'incendie de ces dernières semaines. Est-ce que vous pensez qu'il ne reviendrait que pour si peu de temps ?
Ça serait étonnant, même si ces derniers temps on disait que son esprit était porté sur les Alpes italiennes.
Ouais, du côté de la Juve.
Du côté de la Juve, où il était l'une des priorités du président Agnelli. À mon avis, il vient pas pour 12 matchs. Mais après l'homme est totalement on parlait de Panenka, il est totalement on s'attend à tout maintenant avec lui parce que on s'attendait pas du tout à ce qu'il parte. On s'attendait pas du tout à ce qu'il revienne 9 mois après. C'est une Panenka sur la longueur, ce Zidane.
Pierre, une question encore. Est-ce que finalement, ça reste quand même à officialiser et ça va être lors d'une réunion de tous les dirigeants du Real Madrid qui vont à la fois entériner le départ de Solari, et en tout cas peut-être sa mise à l'écart simplement dans le club, et puis l'arrivée de Zidane.
Normalement, il y a ce qu'on appelle une junta directiva, c'est-à-dire une réunion de la direction à 18h heure de Madrid qui va entériner tout ça et qui va officialiser la venue de Zidane.
D'accord. Merci beaucoup, Pierre, pour ces détails. Et évidemment, si vous en avez d'autres, vous pouvez rester avec nous ou nous recontacter pour nous donner d'autres détails d'ici la fin de l'émission. Habib, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est une nouvelle qui vous surprend, vous aussi, un peu comme tout le monde ?
Non, parce qu'ils vont chercher le meilleur entraîneur du monde de ces 3 dernières années, en fait. C'est un petit peu ça. Oui, c'est surprenant, oui, parce que on pensait qu'il était parti parce que 3 ans, ça doit être usant au sein d'une telle équipe avec une telle pression.
C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs.
Revenir là, lorsqu'on voit le classement du Real, on se dit que oui, ils seront pas champions, mais oui, ils joueront sûrement la Ligue des Champions à la fin de cette année. Ils sont 3e, derrière c'est Retafé, donc je suis pas sûr qu'ils soient. Il y a une énorme menace derrière le Real Madrid, donc c'est peut-être pour se dire que ces 3 mois, on va dire, allez, mars, avril, mai, vont servir à Zidane de reprendre contact avec son groupe, gérer, comme on l'a dit, les affaires courantes, c'est les gens qui doivent partir, relancer certains joueurs qu'il avait mis au centre de son projet. Je pense à des joueurs comme Isco, qui sont plus du tout dans le projet, Asensio, même des Lucas Vazquez, même s'il joue beaucoup plus avec Solari.
C'est-à-dire et la relève, en fait.
Et puis, surtout, gérer les transferts de l'année prochaine, parce que je vois pas Zidane, pour lui, l'intérêt de revenir en pompier de service, alors qu'il n'y a plus rien à gagner pour le Real. Ils sont éliminés hors de course de la Ligue des Champions, éliminé pour le titre. Donc je crois que c'est plus pour justement préparer, être un petit peu comme une avant-saison allongée pour le Real Madrid.
C'est maintenant qu'il faut revenir.
Et puis voilà, parce que s'il revient en quelque sorte l'été, c'est très très court mine de rien pour faire venir des joueurs, parce que là on parle de Mbappé, on parle de Neymar, on parle de tout ce qui se fait de mieux pour venir au Real Madrid. C'est difficile de gérer ces affaires-là en un mois et demi. Donc je pense qu'il se donne un petit peu de champ pour pouvoir gérer ses affaires. Ça veut pas dire que le Real Madrid pourra faire venir Mbappé, Neymar, parce que c'est pas si simple que ça.
Hazard.
Mais ce qui est sûr, c'est oui, y a des joueurs comme Hazard. Après, je suis pas forcément convaincu sur Hazard, mais débat.
C'est des noms.
Ça me surprend, oui, parce que je pensais pas qu'il reviendrait au Real en fait avant d'avoir été dans un autre club que le Real. Voilà.
Shérif.
Les retours, on en a connu un avec Zinedine Zidane avec l'équipe de France. Ça a bien commencé, ça a mal fini. C'est jamais très très facile de revenir dans le club où on a opéré, surtout quand on a tout gagné. Comme disait notre correspondant, il doit avoir de sérieuses garanties parce que là, on n'est plus en transition. Là, c'est pratiquement tout est à refaire. Maintenant, faut repartir avec une équipe. Je pense qu'il peut s'assurer le soutien des cadres Je pense à Ramos, je pense à Benzema, je pense à Varane, Marcelo. Parce qu'il est devenu un Carvajal, vraiment la vieille garde, je pense qu'il peut s'appuyer dessus, mais c'est quand même une garde vieillissante. Il y a une partie du ménage qui a été fait, parce que l'année dernière, il n'était pas satisfait de certains joueurs. Bon, bah voilà, Cristiano est parti, on le fera pas revenir.
Mais Gareth Bale est toujours
là. Gareth Bale, mais bon, Gareth Bale va très certainement partir. Marcelo aussi est sur le départ. Donc là, il y a quand même une équipe à
rebâtir.
Une équipe à rebâtir, et évidemment... Quand on est le Real de Madrid et qu'à la tête, on a Zinedine Zidane, c'est sûr que là, pour les transferts, c'est plus sexy de venir quand c'est Zidane qui est entraîneur que quand c'est Solari. Donc là, on a cité tous les grands noms et tout. C'est sûr que là, on se sent plus rassuré quand c'est Zinedine Zidane. Mais c'est un défi, un challenge encore plus immense que lorsqu'il avait pris le Real Madrid quand il est arrivé en sortant du Castilla, enfin l'équipe de jeunes.
Dominique, je vois que vos camarades veulent déjà dépecer le Paris Saint-Germain. On y viendra tout à l'heure au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que ça vous surprend de voir Zinedine Zidane revenir au Real Madrid plutôt, effectivement, par exemple, de tenter l'aventure du côté de Turin où la Juventus a aussi été un des clubs qui a marqué sa carrière, bien sûr.
Surtout qu'on disait qu'Allegri pouvait aller, lui, au Real Madrid. Je le vois comme le choix du vestiaire, parce qu'il y a des joueurs à faire venir, mais il y a des joueurs à garder aussi. Je pense que Mourinho est un repoussoir.
Que
Varane se serait interrogé, que Benzema se serait interrogé, beaucoup
même Carvajal, il était pas en odeur de santé avec Mourinho.
Beaucoup de joueurs du Real l'ont connu. Ils savent que c'est un fou, un entraîneur génial parce qu'il a été titré, mais c'est aussi un manager un peu fou. On a vu ce qu'il a fait avec Pogba à Manchester United. Il peut prendre quelqu'un en tête de Turc et le cibler. Pogba en pouvait plus. Là, ça peut tomber sur n'importe qui, plutôt quelqu'un de médiatique.
On se souvient de Casillas à l'époque.
Oui,
on
en avait beaucoup. Ça pourrait pas être Modric, mais quelqu'un de très très médiatique. Donc, je pense que c'est le vestiaire aussi à jouer un rôle parce que Zidane, les joueurs l'adorent. Après, effectivement, est-ce que ça va durer, pas durer? Bon, il a pas de classico à jouer, donc là, il est tranquille. L'Atlético, c'est fait aussi. Donc, il reste quand même pas de choc. Il y a pas de match entre guillemets sexy, chaud où ça peut basculer, voilà, il reste une fin de saison à gérer, 12 matchs. Il n'y a pas Messi, il n'y a pas Barcelone, il n'y a pas tout ça, quoi.
Mmh. Eric, effectivement, ils sont troisième et avec des chances quand même de se maintenir dans le quatuor de tête.
Oui, troisième avec 6 longueurs d'avance sur Getafe et 10 sur Alavés. On rappelle que les 4 premiers sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc il y a un petit matelas, surtout que si on regarde le calendrier, ça va, hein. Il n'y a pas de gros matchs à venir. Parmi les 7 premiers, ils ne vont que affronter Valence et Getafe, ce sera à l'extérieur. Donc, a priori, ça devrait aller, sauf effectivement l'effondrement consécutif à l'élimination de Ligue des Champions. On a vu quand même que ce week-end, à Valladolid, ils ont su réagir, même si Valladolid est une équipe classée. Après, est-ce qu'on peut faire le bilan posthume de Santiago Solari, quand même, qui en fait entraînait pour la première fois une grosse équipe, hein. On lui a refilé le bébé, tiens, t'es gentil, tu passes par là, on va te finir Real Madrid. Il avait bien démarré avec pas mal de victoires d'affilée, après ça s'est un petit peu compliqué, il a gagné le Mondial des clubs, bon, toujours ça de prix. Bilan 22 victoires, 2 nuls, 8 défaites, mais c'est vrai que les 3 consécutives, là, les doubles contre le Barça et après l'élimination contre l'Ajax, ça...
Il y a encore un mois, ça allait bien, Eric, hein. Ils vont gagner à l'Atlético, ils font un partout à Barcelone, et tout d'un coup, ça switch. Ils perdent à domicile
en une semaine.
Les deux classicos, ils perdent à domicile d'abord en championnat, après ils perdent les deux classicos, ils perdent contre l'Ajax, alors que jusqu'à l'Ajax, en fait, le match allait, même s'ils sont dominés, mais ils gagnent 2-1, et c'est là où ça bascule.
Après, quand t'as tant gagné, forcément, ça apparaît comme une catastrophe de tout perdre. Parce que c'est un petit peu ça, le Real. Depuis 3 ans, les gens qui leur sont tombés dessus, mine de rien, moi, je trouve que c'est un petit peu ingrat, parce que c'est une équipe qui a gagné 4 Ligues des Champions en 5 ans, donc je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux que ça. Donc on tombe dessus parce que c'est le Real et que c'est l'institution et qu'on se rend pas compte que c'est un cataclysme pour un club comme ça de sortir en 8e. Mais malgré tout, ça peut arriver dans une saison que vous ayez un coup de moins bien.
Non, mais donc, surtout, Habib, depuis le début de saison, il y avait quand même aussi cette lecture par rapport aux résultats, par rapport à certaines contre-performances. On voyait bien que c'était pas...
Il était déjà sous Zidane.
Oui, bien sûr. Mais je pense que lui, il l'a senti. Je pense qu'il a senti qu'il a amené cette équipe au bout l'année dernière pour gagner cette Ligue des Champions. Ils ont eu des difficultés on l'a dit en championnat. Après, il y a un autre paramètre aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on sait que Zidane et Florentino Pérez sont très très proches. Ça a commencé à devenir très très chaud au niveau des justement des socios du Real Madrid par rapport à Florentino Pérez. Je sais pas quand sont les élections, mais je crois qu'il y a quand même des socios à satisfaire au Real Madrid dans les choix que vous faites par rapport aux joueurs, par rapport à l'entraîneur. Là, en quelque sorte, il va s'acheter une paix sociale. Il va s'acheter de faire revenir le Real Madrid quelque chose d'important. Alors, je sais pas quand sont les élections. Hein. Peut-être que je me trompe sur les élections de justement de Florentino Pérez. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous faites revenir un entraîneur comme ça, bah les gens vous suivent en quelque sorte.
Après, sur le recrutement, Annie, hasard, Chelsea est interdit de recrutement pour à cause de transfert sur mineurs. Ouais. Donc c'est compliqué de laisser partir des bons joueurs comme Eden Hazard, qu'ils soient faits ou pas faits pour le Real Madrid. C'est compliqué, parce que sachant que vous pouvez pas recruter vous derrière. Donc il faut se contenter de ce que vous avez entre guillemets. Ils ont un bel effectif. Mbappé a dit hier qu'il resterait au Paris Saint-Germain. Il y a que Neymar qui lui est une Arlésienne. On sait que le Real et Neymar entretiennent des liens depuis plusieurs années. C'est possible, c'est 300 millions d'euros. Le Real n'a pas investi beaucoup sur le marché des transferts depuis plusieurs années. Ils ont une énorme enveloppe, ils peuvent frapper massivement. Après, je sais pas, derrière ces trois joueurs, qu'est-ce qu'il y a d'aussi brillant? Il y a Mohamed Salah, qui est un joueur à part, qui vaut 150, 200 millions d'euros. Il y a Dybala, mais ce qui vaut très cher, mais est-ce que c'est un joueur qui vous transforme en une équipe? Voilà, je sais pas sur qui, à part Neymar, le Real peut frapper.
Ouais, en tout cas, Chérif, un petit mot encore sur l'arrivée de Zidane ou le retour de Zidane.
Au niveau de l'opportunité pour la période, c'est une période où il y aura pas de compétition internationale, il y aura pas de Coupe du Monde, des clubs comme ils le faisaient souvent. Au niveau de la plage de récupération, elle est profitable à l'arrivée de. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que cette saison. Le Real a fait encore, enfin l'effectif du Real a encore fait une saison super chargée avec les internationaux qui ont joué la Coupe du Monde, la Coupe du Monde des clubs et tout. Donc moi, pour moi, ils ont partiellement explosé. Je pense à des joueurs comme Casemiro, je pense à des joueurs comme Modric, je pense à des joueurs comme Kroos. Ils ont plus rien, ils ont plus rien. Donc là, c'était, il y a pas de Coupe de Confédération, il y a pas de Coupe du Monde, enfin il y a pas d'Europe.
Peut-être la CAN, le programme.
Voilà. Et il y a pas non plus la Coupe du Monde des clubs.
Une Copa.
Hein, Copa América.
Oui, mais bon, pour les 100, oui, mais pour les Modric, les
Vinicius et Marcelo, hein, bon, même si Marcelo il s'en va.
Marcelo, bon, il est à côté, Vinicius est à 18 ans, il peut jouer tous les soirs. Non, mais c'est faut en profiter aussi, parce que quand on parle des cadres, justement, ces cadres, ils sont beaucoup affectés.
Bon ben voilà pour ce qui en est du Real Madrid et donc on suivra évidemment le dossier puisque l'arrivée de Zidane la confirmation.
Ça va soulager quelques bancs, hein, parce qu'on l'a annoncé à Chelsea, on l'a annoncé à Manchester United et qu'il y a Sarri et Solskjaer qui doivent être contents.
Peut-être soulagé, en tout cas peut-être Allegri aussi, qui sait, on ne sait pas. En tout cas, c'est vrai que c'est sans doute un beau coup de Florentino Pérez, surtout si c'est pour bâtir à long terme. On continue et on continue avec le PSG, vous voulez bien, Dominique. Les supporters ont concocté une petite chanson qui tourne sur les réseaux sociaux et qui nous a quand même fait sourire.
Le PSG, c'est pas gagné. Comme d'habitude, oh, ouais, oh. Il ne va jamais jouer. Oh, ouais, oh. Il ne pense que à sa sœur. Oh, ouais, oh. 200 millions de porte-monnaie. Guerrero va te faire tout bouffonner ses boulettes. Il a 40 piges, mais qu'est-ce qu'il fait?
Dominique, le PSG, c'est pas gagné, vous l'aviez entendu?
Ah, c'est le Magic System, hein.
Oui, enfin, revu, corrigé.
Oui, c'est ça.
Avec, bon, une pointe d'humour. Alors
vous
après.
Voulez en rire.
On essaye. Après la défaite, donc, eh bien, il y a eu les railleries et les insultes des supporters. Hier, les joueurs du PSG sont retournés à l'entraînement. C'était 4 jours après l'élimination en Ligue des Champions et ils ont quand même dû entendre, voire écouter des supporters leur crier et leur colère, leur rage. C'était d'abord à l'entrée du parc où avait été déplacé l'entraînement. Il y avait plusieurs raisons.
Mais... en train de
ouais, on retourne sur le terrain maudit. Il y avait eu plein de tags insultants au cours du week-end autour du camp des loges. Alors du coup, on avait un peu changé de lieu. Et puis, sur la pelouse du parc, les supporters finalement ont réussi à rentrer en tribune, autorisés à entrer dans les gradins. Dominique, c'est assez étrange. Donc, on les a laissés rentrer avec tout ce qu'ils disaient, ou c'était une thérapie de choc?
Je pense que ça aurait été peut-être pire de les laisser dehors. Sur le fond, on peut comprendre la colère des gens quand c'est une passion. Ce sont des passionnés du Paris Saint-Germain, ou vous êtes tous passionnés de quelque chose, donc vous savez ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes déçu, quand il y a du dépit. Sur la forme, il y a du bon et du moins bon, il y a un peu de virilité déplacée, un peu d'insultes qui n'ont rien à faire, d'intimidation, même si ça va, il me semble que ça déborde pas vers l'intimidation physique, qui celle-là est insupportable. Il y a pas de menace, me semble-t-il. Il faudrait que voilà, cette colère reste canalisée comme ça. On peut pas l'empêcher, elle me paraît normale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens depuis mercredi qui sont extrêmement déçus. Il faut pas que ça aille au-delà.
Mmh. Et certains supporters ont d'ailleurs menacé de ne pas aller à Dijon, encourager l'équipe demain soir.
Ça, sur la forme, c'est pas grave.
C'est une des manifestations. Habib, ça rappellerait presque ce qui s'est passé à Marseille avec les supporters il y a quelque temps, il y a pas si longtemps, quand il y avait eu des mauvais résultats. Et d'ailleurs, hier, certains joueurs sont allés discuter ou essayer de discuter avec certains supporters du COP là, enfin de
ce qu'on appelle Thiago Silva.
Ouais, voilà, du COP.
Oui, c'est passionnel, donc à partir du moment où c'est passionnel, ça touche au plus profond de vous. Oui, moi je pense pas que ça soit productif.
C'est bien que les joueurs aillent discuter avec les supporters.
À froid, oui. À chaud, non.
Oui. Vous pensez que par exemple,
quand on entend par exemple les noms d'oiseaux et tout ça, oui.
Ça fait partie du vocabulaire.
Peut-être passionnel lorsque vous êtes touché. Maintenant, lorsque vous êtes joueur, vous êtes dans une analyse plus profonde que ça. Je ne pense pas qu'on puisse acheter des comme on le dit, ça se vend pas en commerce. Donc à partir de là, il faut que les joueurs assument cette désillusion, cette défaite, qui est une défaite importante pour le club. Ensuite, il faudra reprendre le cours de leur métier et de leur passion aussi, parce que le football est une passion pour tous ces joueurs-là, et essayer, encore une fois, de retourner l'opinion publique. Ces supporters qui sont déçus vont aussi reprendre le cours de leur vie et vont redevenir des supporters passionnés lorsque ça se sera apaisé un petit peu. Ce sont des périodes à vivre en tant que joueur, que j'ai vécu, moi, à l'Olympique de Marseille pendant 4 ans, puisque lorsque vous avez ces petits creux de 2-3 semaines, ce sont des choses qui arrivent. Il faut aussi prendre de la distance par rapport à ça. Vous dire que ça fait partie un petit peu de votre métier. Il faut pas être dans l'affrontement, parce que je pense que c'est contre-productif. Et qu'à partir de là, c'est un petit mauvais moment à passer. Et puis,
faut mieux être dans la compréhension.
C'est soit vous êtes dans la compréhension, soit vous êtes dans l'ignorance. L'ignorance, c'est pas d'ignorer la personne que vous avez en face de vous. Vous faites abstraction, en fait, oui, de tout ce que vous entendez et qui pourrait être dans la vie de tous les jours, dans la rue, par exemple, quelque chose qui vous mettrait hors de vous. Si demain, quelqu'un, il vous dit ce qu'on a entendu là, dans la rue, ça peut être problématique. Là, dans ce contexte-là, je pense que les joueurs font un petit peu, on va faire notre travail, on va entendre tout ce qui va se passer, on va prendre, et puis on va accepter, et on va rentrer chez nous, et la vie va recommencer. Parce que c'est ça, le cours du sport, c'est malheureusement ça, de devoir se relancer pour le PSG. Ils n'ont pas le choix.
Ça fait partie aussi, Chérif.
C'est là qu'on se rend compte que le Paris Saint-Germain a une histoire. Ceux qui sont toujours là, ceux qui bougent jamais, c'est les supporters. Je pense qu'ils ont le droit de manifester. C'est pas aller bien loin, c'est pas méchant, on est d'accord quand même. Donc c'est leur droit. Au-delà, je suis d'accord avec toi, non, c'est pas acceptable. Et puis c'est surtout pour ces supporters-là, ils ont fait le travail, eux. Eux, ils ont fait le travail.
C'est ce qu'ils disent.
Ils sont revenus dans les tribunes, et tout. On va pas refaire l'histoire des ultras, ceci, cela.
Ils avaient même été un peu provocants, on s'en souvient, à Arsenal, en chantant « On est chez nous », et les olé et tout ça sur la pelouse.
À Manchester,
à Old Trafford.
Ils étaient à Naples, ils ont suivi l'équipe. Je rappelle que quand ils étaient en difficulté mercredi soir, eux, ils étaient là, ils ont continué à encourager. Donc même quand ça chauffait, il y a un minimum de considération à montrer pour ces gens-là. Il faut être plus. Il y a pas eu de violence. Il y a pas eu de. C'est resté assez contenu. Mais ces gens-là ont le droit de manifester leur mécontentement. Et puis voilà.
Eric.
Est-ce qu'il y a pas, Dominique, un risque de cassure quand même fort, puisque là la désillusion a fait véritablement très très mal. Après la remontada, on sent une lassitude de la part des supporters. Comment regagner le cœur de ces supporters?
Il n'y a pas de lassitude.
Non, je crois pas, parce que il y a 33 000 abonnés sur un parc de 47 000 places. Ça va très vite. On est sur un bassin de 12 millions d'habitants. quand bien même vous avez, allez, je sais pas, 200, 500, 1000 personnes déçues, vous trouverez mécaniquement des gens pour les remplacer. C'est plus les supporters, les nouveaux supporters, costume cravate, VIP, pas très passionnés par le foot, qui viennent un peu comme ils iraient à l'opéra ou au cinéma, qui cherchent un divertissement un petit peu classe, parce que le Parc des Princes c'est un petit peu classe. Donc qui peuvent éventuellement se lasser, mais les vrais supporters, les ultras, ceux
là,
qui
ils
a...
sont en colère là. Hein, quand
oui, mais bah, eux, c'est leur vie. Donc ils vont revenir,
ils vont revenir avec une Ligue 1 et une Coupe de France, ça, et ça va aller. Mais
vous savez, tant qu'on ne sera pas en huitième de finale, on va y croire. Hein. Une fois qu'on aura, on sera en huitième de finale, qu'on aura gagné 4-0 à l'aller, on y croira. Mais on sait qu'on sera éliminé au retour. Mais non, on a un an pour revoir. On va voir ce que le Paris Saint-Germain va concocter en matière de transfert, en matière
pour
de
rebondir de réorganisation, comme après la remontada, ouais.
Même si c'est pas ça qui fait gagner des matchs forcément. Alors, en tout cas, on l'a vu dans le passé. Bon, après la remontada, ils ont pris Neymar et Mbappé.
Il y a eu la défaite, donc, et c'est vrai que les joueurs, avaient 3 jours de repos. Hein, ils avaient eu droit à
jeudi, vendredi, samedi, c'est ça.
Voilà, 3 jours de repos. Et c'est vrai que sur certains réseaux sociaux, on a l'impression que les téléphones sont éteints. Mais deux Français, deux champions du monde de cet effectif, ont parlé au cours du week-end. Alors l'un avait choisi les réseaux sociaux, l'autre une émission très populaire de football, Prenel Kimpembe donc et Kylian Mbappé. Ils l'ont fait sans l'avis du club, Dominique ?
A priori, oui. Mais je pense que la gestion de ces réseaux sociaux, c'est incontrôlable. Et puis là, c'était juste pour mettre un message de révolte pour Kimpembe. Et puis, l'émission dominicale dont vous parlez,
Téléfoot.
Voilà, il y a un ami que Mbappé est ami avec une des personnes qui fait les reportages, donc
ça a facilité.
Voilà.
Écoutons un petit peu l'une des interventions, et c'est celle du défenseur Prenel Kimpembe.
Mon explication, je dirais qu'on a eu beaucoup de suffisance par rapport au match aller à Old Trafford. C'était vraiment pas la même équipe du PSG. Et voilà, au match retour, ça s'est ressenti. On a perdu cette grinta, on va dire, et cette rage qu'on avait au match aller qui a pu faire la différence. Et je pense que c'est pas le fait d'avoir vécu les expériences passées qui font que voilà, on était stressé ou quoi. Je pense que c'est vraiment par de la suffisance et parce qu'on a pris, je pense, ce match à la légère.
Dominique, c'est la bonne explication ou c'est seulement celle de Kimpembe ?
Bah moi, j'ai tendance à croire les joueurs quand ils parlent, donc jusqu'à preuve du contraire. Après, il peut y avoir des éléments de langage, des mensonges ou ne pas dire la vérité pour parce que il y a de l'argent en jeu. Mais là, ça a l'air d'être sincère. Donc moi,
c'est inquiétant, alors.
Moi, je le crois et c'est effectivement un constat. Alors, je suis d'accord. On parlait avec Habib un petit peu avant que l'émission commence sur la remontada, MU. Elles n'ont rien à voir les deux, le 6-1 et le 3-1. Ça n'a rien à voir sportivement. Mais en revanche, si on peut trouver un point commun, c'est dans les deux cas, c'est ce côté débranché. Ils arrivent, ils enlèvent la prise tout de suite. Ce côté manque de grinta. Alors ça, il faudrait que quand même le Paris Saint-Germain, les joueurs nous expliquent comment, lors des huitièmes de finale contre Barcelone et Manchester United, qui sont deux clubs, parce que vous jouez Schalke, vous jouez le Bayer Leverkusen, bon, pourquoi pas, éventuellement, un peu de suffisance. Mais là, vous êtes face à des monstres, des grands clubs, peut-être pas des grandes équipes. Manchester United n'est pas en ce moment une grande équipe, mais au moins deux clubs mythiques du football. Et comment se fait-il que, au bout de 5 minutes, là, au bout de la remontada, c'était au bout de 3, là, c'était 2, vous enlevez la prise. Pourquoi ?
Habib, vous avez la réponse, vous ?
Ben alors, moi, déjà, je trouve que la déclaration de Kimpembe est maladroite. Elle est dans le déni et elle est surtout individualiste. C'est-à-dire qu'il vient dire, dans une vidéo, on a été suffisant. Si je suis son coéquipier, je vais le voir, je lui dis, écoute, tu parles pour toi, tu parles pas pour moi. Parce qu'aujourd'hui, tu parles au nom du groupe. Sauf que moi, personnellement, quand je vois le match du PSG, Kimpembe ne peut pas se permettre de venir avoir cette déclaration et nous faire penser que Thiago Silva, que Verratti, que Di Maria, que Mbappé, que tous les joueurs qui étaient sur ce terrain ont été suffisants. C'est soit il dit « j'ai été suffisant », c'est-à-dire qu'il prend ses responsabilités parce qu'il fait cette vidéo pour se dédouaner en quelque sorte. Quand on fait ça, joueur, il faut être très honnête avec nous-mêmes.
Alors, peut-être
quand
parce
on communique
que c'est lui,
pour les réseaux sociaux.
C'est lui qui est pris dans le moment du pénalty,
voilà.
C'est ça?
Donc, et pourtant, il n'en est pas un immense responsable. C'est-à-dire que c'est maladroit
c'est
de se donner son dos, on le dit souvent pour un défenseur. C'est un penalty qui il y a 6 mois n'aurait pas été, allez, on va dire post avant Coupe du Monde n'aurait pas été accordé, qui aujourd'hui est accordé et toutes ses mains seront accordées, mais c'est pas le débat. Et qu'aujourd'hui je trouve que venir comme ça quelques jours après, histoire de d'attendrir un petit peu tout le monde, de donner son constat sur une prestation d'équipe, je trouve ça maladroit. Et je ne suis pas sûr qu'il ait été accepté dans le vestiaire du PSG avec des sourires. Je pense pas que ça puisse faire plaisir aux autres.
Il était très mal.
Mais qu'il soit mal ou pas, à un moment donné, ça fait aussi partie. Et c'est ce qu'on disait dans le terme d'émotion. Il faut contrôler ses émotions. Là, à ce moment-là, je suis pas sûr que ça soit le moment pour Kimpembe, jeune joueur, de venir et de faire cette déclaration et de s'adresser en quelque sorte à son public, parce que lorsqu'il diffuse sur les réseaux sociaux, il s'adresse à son public et un public plus large de gens comme nous qui écoutons ce qu'il a à dire. Mais pour moi, lorsqu'il parle, il parle de collectif. Mmh. Si je suis son coéquipier, je lui dis, tu parles de toi, mais tu ne parles pas du collectif. Si tu as envie de dire que tu as été suffisant, aucun problème. Mais ne le dis pas sur moi, parce que moi, je ne l'ai pas été. En tout cas, dans mon constat à moi. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de joueurs du PSG.
Shérif ?
Tout à l'heure, on a parlé des supporters. On avait dit que ça signifiait que ce club a une histoire. Là, maintenant, on va élargir à ce que c'est qu'un grand club. Un grand club, c'est pas simplement gérer et bien cadrer la communication. Pour moi, c'est pas une erreur de communication. Enfin, si, c'est un problème de communication. Mais ce que ça révèle surtout, c'est que ça révèle un choc post-traumatique. Là, ce qui s'est joué, ça veut dire qu'il n'y a pas de cellule psychologique, il n'y a pas d'assistance psychologique pour les joueurs faibles. Il y a des joueurs faibles, on le sait. Et ces joueurs-là, ils doivent être pris en main. Parce que, je suis désolé, ils se font sortir 3 jours. On leur donne 3 jours et tout. En fait, c'est 3 jours à ressasser. En plus, ils ont même pas joué ce dimanche. Donc, on les fait venir en plus au Parc des Princes. C'est bizarre, c'est là où ils ont perdu. Moi, je les aurais fait, s'entraîner autre part. Mais là, c'est surtout qu'il est en train de craquer. Et pour cause, parce que c'est lui qui cause le pénalty. Même si c'est pas de sa faute. Alors là, je suis d'accord avec toi. Quelque part, il tire un peu la couverture à lui. Et en plus, il parle au nom des autres. Ça, c'est très, très maladroit. Mais surtout, ce qu'il révèle, c'est sa faiblesse psychologique. Et il y a des joueurs, aussi important soit-il,
jeunes,
qui ont des faiblesses. Ouais, en plus, il est jeune. Qu'on des insuffisances psychologiques. Et ça, par contre, il faut une assistance. Il n'y a pas de honte à ça. On en parle de plus en plus. L'avenir du football passe aussi par la prise en charge psychologique. On en parle de plus en plus. Et là, c'est un cas flagrant.
Oui, mais d'ailleurs, on se demandait si c'est pas le mental qui avait effectivement craqué.
Parce que pour tout ce qui raconte sur le reste, on a failli. Il le dit, quoi. Il y a un mea culpa aussi. Il faut en tenir compte.
Alors, Kimpembe a parlé. Il y a eu aussi Kylian Mbappé. Alors, lui, c'était un petit peu plus court, très groggy, toujours, et Kylian Mbappé qui lui, essayait aussi d'expliquer, mais en ajoutant ceci.
Je serai là, c'est sûr même. Je pense que voilà, avec ce qui vient de se passer, même avant déjà, c'était déjà acté, mais je pense que voilà, avec tous les problèmes que va engendrer cette élimination, ça sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter, donc voilà, c'est clair et c'est précis.
C'est clair et c'est précis, mais peut-être que ça n'engage que le moment où il parle, Dominique.
Oui, en football, si vous me dites que Jardim revient à Monaco après avoir été viré ou que Zidane revient au Real Madrid, je vous dis, Annie, ça va bien 5 minutes, mais arrêtez de plaisanter. Et puis ça arrive. Donc, oui, ça n'engage qu'au moment, et puis après il y aura le coup de fil de Zidane, et puis après il y aura...
C'était avant que Zidane revienne.
Après il y aura l'argent du Real Madrid, et puis après il y aura les sanctions du fair play financier, puis après le PSG sera obligé de vendre, et puis après 300 millions, quand même. Hein. Oui, non mais bon, après lui, son je pense qu'il est sincère, encore une fois, au moment où il dit ça.
On le voit lui aussi, enfin, Kimpembe ne travestit pas le fait qu'il est encore sous le choc et Mbappé aussi.
Une problématique différente de Neymar, c'est que Neymar a 27 ans et Kylian il a 20 ans, donc il a entre guillemets encore un peu de temps, même si le Ballon d'Or ça veut dire la Ligue des Champions, parce qu'il veut pas le Ballon d'Or pour avoir le Ballon d'Or, il veut gagner des titres. Bon là il sait que cette année il va reculer, il a fini 4e après la Coupe du Monde, juste derrière Griezmann et entre Griezmann et Salah, je crois. Ou Messi, pardon, 5e, 6e Salah, 7e Varane. Il va reculer, mais il a un peu plus de temps que Neymar pour qu'il y ait urgence. Donc c'est différent. Je pense qu'il peut se permettre de rester encore un an de plus au PSG, mais c'est un peu la dernière année parce qu'il doit commencer à se dire que c'est pas que ça va se passer, quoi.
Habib, on a besoin de parler quand même, d'évacuer, parce qu'on a vu par exemple Kylian Mbappé qui communique avec son temps, à la mode de son temps, c'est-à-dire beaucoup sur Twitter. Depuis le match, il n'y a plus un message. Et là, il y a cette petite interview.
Ça vous interpelle pas, la vidéo? C'est-à-dire quand on le voit, tous les rideaux sont fermés, on a l'impression qu'il est là.
Dans
qu'il y a
une
eu...
cave.
Non mais, c'est dur à dire, on a l'impression qu'il y a eu un décès, qu'il y a... Et je trouve que c'est pas contrôlé.
C'est trop.
Mais c'est pas que c'est trop, c'est qu'en fait j'en veux pas du tout à Kylian Mbappé ou à Kimpembe.
Mais...
Je trouve qu'à un moment donné, dans des grands clubs comme ça, il y a des moments, et puis il faut que ça soit cadré. Là on sent, bon, ok, Téléfoot, puisque c'est un ami, il a dû dire ouais, ça serait bien que tu dises quelque chose. Et puis bah, dans l'émotion, dans cette peine, dans ce côté un petit peu, vous avez envie de voilà, de vous excuser, de dire les choses. Mais le cadre, tout ce que vous renvoyez en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre un petit peu de hauteur et dire qu'est-ce qui renvoie à ce moment-là. Et c'est vrai que pour Kimpembe, on voit quelqu'un qui est très affecté, qui parle au nom du groupe. Et puis pour Kylian, ce qui dégage d'habitude en termes de sérénité, de imperméable sourire à tout, de joie, et ben là on a tout le contraire. On a quelqu'un qui a été vidé.
C'est peut-être voulu. Peut-être qu'il y a une mise en scène, je sais pas. Hein,
peut-être raison. Quoi, en me disant ça, tu me fais me rendre compte que peut-être c'est voulu et que c'est une forme d'empathie qu'il essaye de renvoyer par rapport à
l'autoflagellation, tout le monde.
T'imagines s'il y a des fleurs derrière et une fenêtre ouverte sur une prairie, les gens vont dire bah en fait ils s'en fichent quoi.
Tu vois, aujourd'hui. Moi,
je trouve que en général la meilleure réponse de tous ces joueurs-là, de toute façon, se fera sur le terrain de par leur performance et la capacité à relancer ce club.
L'année prochaine, alors.
Non, parce que aujourd'hui, il faut pas banaliser ce que fait le PSG sur le plan national. Ok, c'est vrai, il y a tragédie. Ok, il y a
ça l'est un peu trop, effectivement.
Mais à un moment donné, il faut pas oublier qu'ils sont encore engagés sur deux compétitions et que si à la fin de cette saison, ils ont gagné deux compétitions, il faudra encore une fois se lever, dire bravo, parce que c'est pas une banalité de penser que le PSG aujourd'hui. Alors pour tout le monde ça l'est, parce que le budget, parce que les joueurs, mais moi je reste encore aujourd'hui
admiratif.
Ouais, j'aime voir les équipes gagner et j'aime voir les gens qui se donnent les moyens de gagner, même si c'est peut-être plus facile pour eux. S'ils gagnent encore un doublé, ça sera une saison qui amènera deux trophées au PSG.
La preuve que c'est pas facile, c'est qu'ils ont perdu en Coupe de Ligue contre Guingamp, c'est qu'ils ont perdu en Ligue des Champions,
exactement.
Donc c'est bien que ça, ils le méritent quand ils vont chercher les titres.
Quoi. Et qu'il y a peut-être un match où ils auront envie d'être d'apparaître et d'être très présents, et ça sera dimanche soir au Parc des Princes, et ça sera un certain PSG.
Il y aura Dijon avant.
Vous vous se réconcilier, oui, demain. Mais à Dijon, réconcilier avec les supporters, Eric, c'est un petit pas. Hein. Mais c'est pas mal de gagner contre le rival intime.
Il vaut mieux là, oui.
Eh ben, on va s'intéresser à ce rival intime, parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est ciel bleu, comme on dit en espagnol, hein, todo azul.
Exactement.
Alors, on y va du côté de la Méditerranée.
C'est deux ailiers là pour l'instant. Oh là là, il l'a fait. Il l'a fait en effet, François-José Balotelli. Il marque contre son ancien club, il marque contre Nice. Une glissade fatale d'un défenseur niçois. Et Balotelli, lui, ne glisse pas à zéro pour l'OM.
Alors à l'OM, tout va bien ou tout va mieux, on pourrait dire. Enfin, Habib, les Marseillais enchaînent après une quatrième victoire devant leur public au Vélodrome et leur propriétaire américain était même présent. C'est plus trop son habitude, en tout cas depuis un des matchs où ils avaient perdu face au LOSC. En regardant en tout cas désormais pour Marseille plutôt vers le haut que vers le derrière ceux qui les suivent au classement. Alors tout cela est-ce dû à Super Mario ? Sans doute, puisque la présence du grand attaquant coïncide avec les meilleurs résultats de l'équipe. Mario Balotelli suscite l'enthousiasme chez les supporters et chez son entraîneur Rudy Garcia.
Un buteur de ce calibre-là, ça change effectivement sur le fait qu'il lui faut pas beaucoup d'occasions pour les convertir. Après, j'ai plutôt envie de féliciter Mario aujourd'hui, pas pour son but, parce qu'on sait qu'il est capable d'en mettre. Il en a mis, il en mettra encore, mais plus pour son attitude. Il a été assez exceptionnel. Il y a eu un peu de provocation physique. Il a été intelligent, il s'est bien tenu. Voilà. Il a dit plein de belles choses, Mario, c'est ce que je vous disais, c'est un garçon intelligent quand il parle de sujets importants, il l'a fait depuis qu'il est chez nous, voilà, vous découvrez peut-être un garçon qui est sensible, intelligent, et voilà, pour l'instant ça se passe bien avec nous, mais bon, c'est pas le moment de parler de ça, ce qui compte c'est le prochain match, et pour l'instant qu'il se repose lui comme les autres.
Rudy Garcia le flatte tout en restant prudent, alors que vous allez l'entendre, Patrick Vieira, l'ancien entraîneur, celui de Nice, qui donc se retrouvait face à l'équipe de l'OM hier, eh bien lui ne ménage pas tout à fait son ancien buteur Mario Balotelli.
Quand on regarde les occasions, ça a été assez pauvre des deux côtés, mais à l'arrivée, la différence s'est faite sur un coup de tête de Mario qui a été plutôt inexistant dans le match.
Plutôt inexistant dans le match. Alors en tout cas,
c'est
nos confrères.
C'est pas classe, je trouve.
C'est un peu dur.
Bah, c'est surtout que son équipe a perdu 1-0 et que c'est Balotelli qui a marqué. Donc, exactement. En fait, le duel, s'il existe entre les deux, c'est Balotelli qui l'a remporté. Je pense qu'il aurait dû soit ne pas s'exprimer, soit dire oui, bah. Parce que bon, là, en gros, il dit qu'il a été inexistant, mais le but d'un attaquant aujourd'hui, s'il est inexistant pendant 89 minutes, mais qu'il marque à la 90e, moi, je suis content si je suis son entraîneur.
Si c'est le but de la victoire en plus.
En plus.
Donc, ça fait beaucoup.
Là, hein, je pense qu'il y a une forme de rancœur entre les deux qui est exprimée par Patrick Vieira, qui pour le coup, d'habitude, est très mesuré et qui peut-être là.
Ouais, voilà. Il a eu du mal.
Ça veut dire que ça passe pas.
Il a eu du mal. Voilà. Il a eu la note 7 dans l'équipe, hein, ce qui veut dire que quand même d'autres l'ont trouvé plutôt bon. Et il empile les buts du côté de Marseille,
oui,
Eric.
Les faits sont là, hein, 5 buts en 7 matchs. Et il a marqué lors de ses 4 premiers matchs au Stade Vélodrome, ce qui n'avait jamais été fait depuis 45 ans. En tout cas, sa réussite coïncide avec le retour en grâce de l'Olympique de Marseille. Invaincu depuis 6 rencontres maintenant, 5 victoires et 1 nul, 9 buts marqués. 2 encaissés, ça va bien sur les deux lignes. Maintenant, ils ont battu Bordeaux, Dijon, Amiens, Saint-Etienne, Nice, et puis un nul à Rennes. Bon, bah, la crise, entre guillemets, paraît loin maintenant, traversée entre fin novembre et début février. Il y avait eu 12 matchs pour une seule victoire et 8 défaites. Et là, Marseille se retrouve 4e à 3 longueurs seulement de la 3e place de l'Olympique lyonnais.
Habib, est-ce que c'est un faisceau de faits convergents finalement dans cette bonne santé du moment de l'OM? C'est-à-dire l'arrivée de Balotelli, mais aussi les changements qu'on voit bien que fait Garcia dans son équipe. Hein. Payet ne joue pas, alors blessé ou pas, de même Luis Gustavo, de même sans doute Adil Rami, donc Strootman et tout, il y a aussi d'autres changements.
Bah, l'arrivée de Balotelli l'a amené à faire des choix sur le plan tactique, sur le plan de l'animation et sur le choix des joueurs, parce que personne n'aurait envisagé de voir un milieu de terrain Lopez, Sanson et un Gustavo sur le banc. Payet, on se disait que c'était éventuellement une possibilité, mais Gustavo sur le banc, c'était quand même une rareté du côté de l'Olympique de Marseille. Après, ce qui est bien, c'est que Balotelli est rentré dans cette équipe en prenant toute la pression justement qu'il peut y avoir à l'Olympique de Marseille, donc délester en quelque sorte les autres qui avaient un petit peu de mal à supporter cette pression. Lui, il a aucun problème avec ça. En plus,
il joue le jeu.
Il arrive, il rentre contre Lille, il marque. Et ce jour-là, c'était le feu dans le stade Vélodrome. Donc, ça avait donné un petit peu d'espérance à tout le monde en se disant, bon, quand lui va être là, va convertir les occasions. Et c'est un petit peu le cas parce qu'en fait, ces occasions, Marseille les avait avant. C'est-à-dire qu'ils en avaient 6-7 par match. Sauf que c'était Germain et Mitroglou qui n'arrivaient pas eux lorsqu'ils avaient 2-3 opportunités à les mettre au fond. Lui, quand il en a 2 ou 3, il en met une au fond. Ça prouve que, encore une fois, on s'est pas trompé sur le joueur de talent qu'il est. Maintenant, le vrai problème pour Mario Balotelli, c'est de voir sur la continuité et surtout sur les échéances qui seront importantes pour l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Lyon à la 36e journée, parce que pour l'instant, ils ont perdu tous les matchs du top 5, donc ils ont perdu, je crois, contre Montpellier, contre Lille, contre PSG, contre Lyon, et que il est un joueur important, mais il le sera encore plus lorsque, justement, Marseille va aller au Parc des Princes, parce que c'est là qu'on l'attend, c'est là où il doit faire la différence pour justement faire basculer Marseille dans ce côté positif. Parce qu'il faut garder Lyon à 2 points, parce que pour l'instant 3 points, mais le goal average met Lyon plus ou moins à 4 points d'avance, puisqu'il y a ce goal average qui ferait la différence, qui est en faveur des Lyonnais, et que si Marseille arrive à réduire l'écart entre eux et les Lyonnais à la 36e journée, et qu'ils jouent Lyon à domicile, il y aura une vraie opportunité d'aller toucher la Ligue des Champions, 3e place.
L'écart, il est très mince pour l'instant, Eric, hein, c'est 3 points,
on
à
dit,
peine.
3 points, 3 points en faveur de...
Et Lyon est assez régulier. Hein.
De Lyon, alors bon, on peut voir le calendrier, en regardant les grosses oppositions, on va dire, face au meilleur. Lyon ira à Rennes, recevra Lille, ira à Marseille, il va finir à Nîmes. Voilà pour les matchs, on va dire, assez costauds. Pour Marseille, donc il y a le Classico de ce week-end, l'OM va aller à Strasbourg, va recevoir Lyon et va finir contre Montpellier. Donc c'est kiff-kiff, en sachant que Lyon a la Coupe de France également. Et peut-être la Ligue des Champions encore.
Dominique, Super Mario, c'était à la fois ce dont avait besoin Marseille, mais avec Balotelli, on sait que pour un rien, ça peut peut-être aussi basculer dans un peu l'irrationnel, en l'occurrence.
Ben, si, ils ont besoin de ça, Marseille. Hein. J'ai suivi le club pour d'autres journaux que le Parisien. Ils ont besoin d'une part d'irrationnel que leur a offert Bielsa pendant une saison et un match. Que là, l'ami Mario Balotelli leur offre aussi, ça durera ce que ça durera, parce qu'avec Mario, c'est les histoires d'amour commencent souvent bien, et elles finissent souvent mal aussi, malheureusement, dans tous les clubs où il est passé. Donc là, en plus, il a signé 6 mois à 500 000 euros brut par mois, Donc il vient déjà de donner l'interview à la Provence où il veut prolonger. Évidemment, il sait que c'est en ce moment qu'il faut réclamer, parce que s'il marque pas contre Paris, s'il marque pas contre Lyon, s'il marque pas dans les grands matchs, comme l'a dit Habib, là, forcément, il y aura plus de doutes. Mais c'est surtout pour moi, je vais peut-être choquer en disant ça, mais l'échec de Rudy Garcia, en fait, parce que il s'occupe du recrutement, il valide toutes les arrivées depuis le début. Mitroglou, c'est lui, il a un système de, il a un réseau personnel d'agents, qui fait que Zubizarreta, le directeur sportif, est complètement mis sur le côté. Et là, c'est pas lui, Mario Balotelli, c'est une lubie du président. Alors, moi, j'aime pas trop que les présidents recrutent, mais là, il se trouve que, pour l'instant, l'idée de Jacques-Henri Arrault, elle est bonne. Et que quand Rudy Garcia s'occupe pas du recrutement, quand il fait vraiment son métier d'entraîneur, qu'il communique pas et qu'il proteste pas contre les arbitres et qu'il s'occupe pas du recrutement, quand il fait vraiment son métier d'entraîneur, bah là, on s'aperçoit qu'il trouve des solutions, qu'il arrive à organiser une équipe. Donc, j'ai envie que Rudy Garcia, il arrête de recruter la terre entière pour faire plaisir à ses copains.
Strootman,
voilà, tous ces gens-là qui ont coûté un bras à l'OM, 28 millions Strootman, 16 millions Radonjic, et voilà, Mario Balotelli, ça coûte peut-être cher, mais c'est pas lui, et pour l'instant ça marche.
Shérif, quelque chose à dire sur Marseille?
C'est l'immense gâchis. On réfléchit deux secondes là, cette équipe de Marseille actuelle, si elle était encore en Europa League, là je pense que ils étaient encore partis pour faire un exploit. J'avais bien aimé en début de saison le gros de l'équipe et tout, on avait tous des doutes sur Mitroglou, mais tout reporter sur Mitroglou et tout mettre aussi après sur Balotelli, je trouve que ils se sont perdus en route, il y a une spirale. Là, on voit une équipe avec le système qui lui convient, c'est un 4-4-2, avec des joueurs qui sont à leur place, ça va bien, et des joueurs qui ne sont pas en forme, on les met de côté. Que ne l'a-t-on fait avant?
Eh oui.
Mais Luis Savo va revenir. Hein. Il a tellement donné. Bon, il a explosé en vol lui aussi parce qu'il a tellement donné. On l'a balayé dans tous les postes, mais il va revenir pour la fin de la saison.
On l'a pas mis non plus à son poste. Pour terminer, Habib, on a finalement trois places pour quatre équipes qui veulent cette place en Ligue des Champions. Le PSG, avec tous ses malheurs, l'aura quand même sans doute l'année prochaine en terminant premier. Il y a Lille, Marseille et Lyon. Lille qui ne perd pas, encore un but de Nicolas Pépé au cours du week-end et qui paraît de plus en plus inatteignable. Selon vous, qui sera le troisième élu pour la Ligue des Champions la saison prochaine?
Tout dépend.
Est-ce qu'on peut déjà le sentir?
Tout dépend. Lyon a toujours été très très bon en finish. C'est une équipe qui reste régulière. Tout dépendra de la vraie perf qu'est capable de faire les Marseillais aussi pendant ce classico, parce que là c'est vrai qu'ils sont revenus à 3 points, mais
ça donnera
l'éventualité...
le classico.
Bah oui, parce que je pense que c'est aussi là qu'on va juger l'Olympique de Marseille, parce que lorsqu'ils jouent du 5e au 20e, bah il se passe pas grand-chose, il y a pas de problème, parce que de toute façon ils sont supérieurs en termes d'effectifs, ils sont supérieurs en termes de qualité, mais dès qu'on joue le ton au-dessus, ils ont jamais été capables tactiquement, parce que c'est aussi ça, et ils ont jamais été capables en tant qu'équipe de faire la différence, et ça passe par ces perfs-là. Rappelez-vous l'année dernière, il y avait ce match face à Lyon à domicile, l'opportunité pour les Marseillais de passer à 8 points en cas de victoire devant Lyon. Résultat, ils perdent et ils se retrouvent, au lieu de se retrouver à 8 points, je crois qu'ils s'étaient retrouvés à, si je dis pas de bêtises, je fais mon calcul, ils étaient à 5, donc 8, et ils se sont retrouvés en fin de compte à 2 points des Lyonnais.
Ouais,
donc vous avez vu le gouffre que ça a créé ce jour-là, et c'est ce jour-là que le championnat a basculé et que Marseille ne va pas en Ligue des Champions. Et mine de rien, ça met aussi toute la politique de l'Olympique de Marseille pour recruter des joueurs en berne, parce que lorsque vous n'avez pas la Ligue des Champions, Mario Balotelli, si demain il y a une équipe de la Ligue des Champions qui vient le chercher, je pense qu'il sera aussi dans cette optique-là de partir.
C'est la fin de ce Radio Foot International.
Déjà.
Mais oui,
ça va aller,
déjà.
Dominique. Ça va aller, Dominique. Ils vont faire le doublé.
J'avais tellement de sujets d'actualité aujourd'hui qu'on reviendra, bien sûr, les jours prochains sur les autres clubs et notamment sur ceux de la Première Ligue. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi à Laurent Salerno qui était à la réalisation aujourd'hui et à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer l'émission. Et on vous dit à demain pour la suite des aventures de la planète football.